Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir l'Afrique, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique, Le Monde Aujourd'hui, édition du vendredi 10 octobre 2014, en direct du studio 13 à Washington, au micro Bagassi Koura et Morgane Guériec. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Au sommaire ce soir, prix Nobel de la paix, la pakistanaise Malala Yousafzai est la plus jeune lauréate de l'histoire. Premier essai d'un vaccin contre Ebola en cours au Mali.
Dès que le vaccin est injecté, ils seront mis sous surveillance et régulièrement on leur fait des tests sérologiques pour voir quelle a été la réaction du corps humain.
Voilà, conflit en Syrie. Malgré les frappes de la coalition, les djihadistes de l'État islamique continuent de gagner du terrain à Kobané.
Et nous parlerons aussi de ces femmes qui quittent l'Europe pour rejoindre les rangs de l'État islamique.
J'étais entraînée en voyant les vidéos de ça. Et puis après, quand je suis arrivée à Marseille et que j'ai rencontré des gens, bah, ils m'ont beaucoup aidée. Ils m'ont dit que c'était pas vraiment islam là-bas. C'était des terroristes, des gens qui tuaient les femmes et les enfants. C'était pas islam du tout, quoi. C'est pas la bonne direction. Donc après, j'ai arrêté.
Voilà, après j'ai arrêté. Lutte contre le terrorisme en Afrique. Les forces françaises ont détruit hier un convoi d'ACMI dans le nord du Niger.
Trois islamistes ont par ailleurs été tués par l'armée algérienne. Et comme toujours en fin d'émission, nos pages sport et musique. Pour l'instant, le journal.
Le prix Nobel de la paix attribué à Malala Yousafzai et Kailash Satyarthi, la pakistanaise, est la plus jeune lauréate de l'histoire. Leur portrait avec Eddie Sango.
Les lauréats sont récompensés pour leur combat contre l'exploitation des enfants et les droits de ceux-ci à l'éducation. À 17 ans seulement, Malala est devenue l'icône mondiale du droit des filles à l'enseignement. Cet enseignement a bien failli lui coûter la vie quand des talibans ont tenté de l'assassiner en 2002. Ce prix n'est pas seulement une médaille à porter ou un certificat affiché au mur, mais c'est un encouragement à aller de l'avant, à croire en moi-même et savoir que des gens me soutiennent dans cette campagne, a déclaré la jeune pakistanaise. Moins connue du grand public, Kailash Satyarthi vient au secours des enfants et des femmes réduites à l'état d'esclavage dans les usines indiennes où ils effectuent des tâches pénibles et sont victimes des violences, y compris sexuelles. Je remercie les comités Nobel pour cette reconnaissance de la détresse des millions d'enfants qui souffrent, a réagi les discrets lauréats indiens auprès de Press Trust of India. Le secrétaire d'État américain John Kerry s'est félicité du choix de Kailash Satyarthi et de Malala Yousafzai pour les prix Nobel de la paix. Je pense que les deux représentent ensemble une affirmation incroyable appropriée de l'importance des femmes et des enfants. Et bien sûr, Malala a été une porte-parole courageuse et extraordinaire pour les droits des enfants et des filles, a souligné John Kerry. Il a été calculé qu'il y a 168 millions d'enfants travailleurs dans le monde aujourd'hui. En 2000, ces chiffres étaient des 78 millions plus élevés. Le monde s'approche du but qui vise à éliminer le travail des enfants, a lancé le président du comité Nobel, Thorbjørn Jagland.
Et puis ajoutons que Malala Yousafzai, qui a d'ailleurs appelé aujourd'hui les premiers ministres du Pakistan et de l'Inde, deux pays aux relations conflictuelles, a assisté elle-même à la remise du prix Nobel de la paix.
Les djihadistes de l'État islamique se sont emparés vendredi du QG des forces kurdes dans la ville syrienne de Kobané, où les extrémistes parviennent à éviter les frappes de la coalition. C'est ce que nous dit Timothée Donangmaï.
Face à cette avancée, les forces kurdes, de plus en plus désespérées, voient leur stock de munitions diminuer et réclament des frappes plus intenses contre le groupe extrémiste. C'est ce qu'a affirmé à l'AFP un militant kurde qui effectue des allers-retours dans cette ville frontalière de la Turquie. D'après ce militant du nom de Mustafa Ebdi, les djihadistes utilisent des voitures civiles et mettent des drapeaux kurdes sur leurs véhicules pour leurrer les avions de la coalition internationale dirigée par Washington. Les djihadistes ont pris le contrôle du carré de sécurité à Kobané, qui comprend le complexe militaire des unités de protection du peuple, principale milice kurde syrienne, la base des Asayech, les forces de sécurité kurdes, et le siège du conseil local de la ville, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Entre lundi, l'EI contrôle désormais 40% de la ville, après avoir pris l'est de Kobané connue sous le nom d'Ain al-Arab en langue arabe, et continue d'avancer dans l'ouest et le sud, selon l'ONG.
Des milliers de personnes se sont mobilisées ce vendredi dans les rues de Hong Kong, répondant à l'appel des leaders du mouvement pro-démocratie qui avaient demandé à leurs partisans de se préparer à une campagne au long cours après l'annulation de pourparlers par les autorités. La foule réunie à Admiralty, près du siège de l'exécutif local, était toutefois moins nombreuse que la semaine dernière, lorsque des dizaines de milliers de personnes avaient manifesté pour réclamer davantage de liberté politique et la démission du chef de l'exécutif.
Les deux Corées ont échangé des tirs nourris de mitrailleuses de part et d'autre de leurs frontières terrestres après que le Nord a ouvert le feu sur des ballons transportant des tracts hostiles à Pyongyang. Et c'est ce qu'affirment des sources militaires sud-coréennes. Aucune victime n'a été signalée. Un incident qui intervient alors que Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen, n'a pas été vu en public depuis plus d'un mois, ce qui provoque de nombreuses rumeurs sur son sort en Asie.
Le président ukrainien Petro Porochenko a nommé un général au gouverneur pour tenter de reprendre en main la région séparatiste pro-russe de Donetsk. Celle-ci échappe au contrôle de Kiev et des combats meurtriers y font rage malgré le cessez-le-feu. Le général Oleksandr Kitenko, 58 ans, ex-commandant des troupes du ministère de l'Intérieur, remplace Sergei Taruta, 59 ans, un homme d'affaires. Par ailleurs, le Fonds monétaire international estime que l'Ukraine aura besoin d'une aide financière supplémentaire pour faire face à la grande incertitude dans le pays où le cessez-le-feu dans l'Est est de moins en moins respecté.
Un Allemand enlevé il y a plus de 2 ans au Pakistan a été libéré à Kaboul, en Afghanistan, annonce d'un porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères. 2 travailleurs humanitaires, un Allemand et un Italien, avaient été enlevés en janvier 2012 dans le centre du Pakistan. Ils étaient employés par une ONG allemande spécialisée dans la lutte contre la faim. Et le quotidien allemand Bild affirme que M. Bernd a été libéré par un commando spécial de soldats allemands.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Allez, direction l'Afrique. Les forces françaises affirment avoir détruit un convoi d'ACMI dans le nord du Niger. L'Élysée, qui rapporte l'information dans un communiqué, affirme que des armes en provenance de Libye devaient être acheminées au Mali. Le point avec Nicolas Pineau.
Oui, selon Paris, en coopération avec les autorités nigériennes, les forces de l'opération Barkhane ont de nouveau intercepté et détruit la nuit dernière un convoi de véhicules armés d'ACMI qui transportait, selon Paris, des armes de la Libye vers le Mali. L'intervention a permis de saisir une importante quantité d'armes et de neutraliser les convoyeurs, dont une partie ont été capturés. Il faut dire qu'on note une recrudescence des attaques des djihadistes dans la région, notamment contre la mission onusienne au Mali. 9 casques bleus nigériens sont morts il y a une semaine lors d'une embuscade entre Sango et Menaka. Lundi, c'est un soldat sénégalais qui a été tué à Kidal suite à des tirs de roquettes sur le camp de la MINUSMA. Pour la présidence française, au moment où les négociations se poursuivent à Alger pour parvenir à un accord de paix, les djihadistes menacent la paix et la sécurité de l'ensemble de la région.
Sachez aussi que 3 islamistes ont été tués par l'armée algérienne. Le ministère de la Défense explique que l'opération s'est produite près du barrage d'Asserdoun, au sud de Lac Daria, près de l'ancien campement de Joun al-Khalifa, organisation terroriste qui a tué l'otage français Hervé Gourdel, campement qui a d'ailleurs été détruit jeudi. Rappelons que l'Algérie mène une vaste opération de ratissage pour neutraliser ces djihadistes.
Les parlementaires libériens passaient à la loupe ce vendredi un texte de loi visant à octroyer à la présidente Ellen Johnson-Sirleaf des pouvoirs accrus pour lutter contre l'épidémie du virus Ebola, pouvoir qui l'autoriserait notamment à restreindre les déplacements et les rassemblements politiques. La législation prévoit aussi la saisie de toute propriété sans compensation et sans aucun recours en justice de la part du propriétaire. Jacques Aristide nous en dit plus.
Les réactions n'ont pas tardé, un politicien se disant inquiet de voir le Libéria se muer en état policier et un journal se demandant si le but du gouvernement est de combattre l'Ebola ou d'ouvrir la porte à la tyrannie. Pour sa part, Reporters sans frontières a critiqué Monrovia pour avoir interdit ce vendredi l'accès des médias aux centres de traitement, l'objectif d'après l'ONG étant de les empêcher de couvrir un mouvement de grève dans une clinique de la capitale. Mais le porte-parole du gouvernement, Isaac Jackson, a accusé les journalistes de violer l'intimité des gens en prenant des photos pour les vendre à des institutions internationales. Pendant ce temps, un nouveau vaccin contre l'Ebola est actuellement mis à l'essai au Mali et en Gambie. Au total, 80 volontaires prennent part aux tests. Si les résultats sont probants, le vaccin pourrait être distribué dès novembre. En Europe, le gouvernement britannique a fait savoir que les voyageurs qui arrivent d'Afrique de l'Ouest aux aéroports de Heathrow et de Gatwick ou aux gares Eurostar pourraient subir un examen médical. En Espagne, l'état de santé de l'aide infirmière infectée par l'Ebola demeure grave mais stable.
La Côte d'Ivoire s'explique sur son refus de traduire Simone Gbagbo devant la Cour pénale internationale. Nous sommes en train de donner suite aux demandes d'explication de la CPI. C'est ce qu'affirme le gouvernement cité par l'AFP. Les autorités avaient demandé à la CPI de se déclarer incompétente pour poursuivre Simone Gbagbo afin que celle-ci soit jugée dans son pays. La Cour avait laissé jusqu'au 10 octobre à Abidjan pour déposer et pour justifier l'exception d'irrecevabilité.
Voilà, direction la République démocratique du Congo, l'ex-rébellion M23 scandalisée par les accusations d'exaction formulées par les Nations Unies. Bertrand Bissimoua, président de la branche politique du mouvement du 23 mars, estime que le rapport du Bureau des droits de l'homme des Nations Unies n'est fondé que sur des propos recueillis et non des faits observés ou établis. Il accuse les auteurs du rapport d'omettre les massacres de civils dont l'armée congolaise et de la mission de l'ONU au Congo serait responsable. Bertrand Bissimoua réitère sa demande d'une enquête indépendante dans les zones que le M23 administrait dans le Nord Kivu. Dans ce rapport, l'ONU accuse le mouvement du 23 mars d'avoir violé et torturé plusieurs centaines de personnes, des violations des droits de l'homme qui pourraient constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, insiste l'ONU.
Le gouvernement éthiopien dit espérer que la justice américaine poursuivra les manifestants qui ont forcé la grille de son ambassade à Washington le mois dernier. Le gouvernement américain est censé protéger l'intégrité de l'ambassade et de traduire en justice ces intrus, estime Addis Abeba. Washington a expulsé un agent de sécurité éthiopien qui avait tiré des coups de feu de sommation durant l'incident. Voilà pour le journal. Au micro, Bagassikoura et Morgane Guiriac en direct de Washington. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique et on enchaîne sur la partie magazine de notre émission. Face à une nouvelle flambée du virus Ebola, Conakry, les capacités d'accueil du centre Ebola de Médecins sans frontières dans la capitale guinéenne arrivent à saturation. Le centre Ebola de Donka atteint ses limites physiques, explique l'ONG dans un communiqué. Et pour plus de précisions, Camille Courdidier, adjoint sur place Jérôme Mouton, chef de mission à Médecins sans frontières en Guinée.
Tendance qui se passe depuis fin juillet où il y a une augmentation constante du nombre de cas. Ce sont toutes des chaînes de transmission importées de la Sierra Leone et en particulier pour Conakry ou du Liberia sur la forêt où la situation est la même. Et comme la réponse en face n'est pas adaptée à cette augmentation, aujourd'hui il y a des chaînes de transmission qui ne sont pas maîtrisées et du coup le nombre de patients augmente et on commence à atteindre un peu les limites de capacité d'accueil en patients.
Notamment le centre Ebola de Donka, qui est au cœur de Conakry, la capitale, est saturé?
Disons qu'il n'est pas encore tout à fait saturé, puis on est en train d'augmenter les capacités d'accueil. Mais effectivement, si cette tendance poursuit pendant quelques semaines, il risque d'atteindre la saturation. On fera tout pour que ça ne soit pas le cas et pour adapter notre niveau de réponse. Mais on préfère surtout que les mesures préventives soient mises en place pour qu'on se mette à juguler cette augmentation du nombre de cas. Parce qu'elle est tout à fait contrôlable ici. La situation en Guinée n'est pas du tout celle des pays voisins. Là, on ne parle par exemple dans Conakry que de 3 chaînes de transmission. C'est simplement que le suivi épidémiologique et le suivi des contacts doit être fait de façon exhaustive. Et s'il est fait, on reprendra le contrôle sur la situation et on aura pu à s'inquiéter de cette possibilité d'atteindre les limites d'accueil de malades.
Vers fin juillet, on était plutôt positif au sujet de la Guinée comparé à la Sierra Leone et au Liberia. Qu'est-ce qui s'est passé?
Tout à fait. Je vous dirais même que fin juillet, si la Guinée était une île au milieu de l'océan, on aurait été à deux doigts d'avoir terminé la lutte contre cette épidémie et la Guinée serait aujourd'hui libre de tout cas d'Ebola. Ce qui s'est passé simplement, c'est que pendant ce temps-là, la situation en Libéria, en Sierra Leone, se dégrade de façon dramatique du point de vue de l'épidémie d'Ebola, mais également du point de vue économique, avec toutes les mesures de coercition qui ont été prises, les lockdowns de la population, les quarantaines, les interdictions de marché, l'effondrement du système de santé pour les autres problèmes qu'Ebola. Tout ça a pour conséquence que les populations qui ont des liens avec la Guinée ou même ceux qui ont simplement dans la possibilité sont venus chercher soit le refuge, soit une meilleure situation économique, soit des soins de santé en Guinée. Et que dans ces gens qui viennent de ces pays et qui rentrent en Guinée, une proportion d'entre eux mathématiquement sont en période d'incubation et enfin, ont été infectés dans leur pays d'origine et viennent en Guinée en pleine forme, sauf qu'ils ont déjà été infectés, c'est en période d'incubation et une fois arrivés ici, ils développent les symptômes.
Voilà, c'était Jérôme Mouton, chef de mission MSF en Guinée. Et puis notons que les premiers essais d'un vaccin contre l'Ebola sont en cours au Mali. Pour en savoir davantage, j'ai joint à Bamako Dr Abdoulaye Nene Koulibaly.
On a au Mali la chance d'avoir un centre de développement des vaccins qui travaille en collaboration avec l'Université de Maryland depuis des années. Ils ont mis en œuvre beaucoup de vaccins qui ont été testés, qui ont donné d'énormes succès, notamment le pneumovax, le vaccin contre la pneumonie. Et actuellement, il y a un test vaccinal contre le virus Ebola. Et ça se fait généralement après l'avis du Comité national d'éthique sur une base d'échantillonnage. Donc l'équipe du professeur Samasso est en train de travailler dessus avec l'équipe de l'Université de Maryland.
Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de Maliens qui sont bien portants, qui vont être sélectionnés?
Non, ça se fait sur la base d'un échantillonnage choisi au hasard. C'est-à-dire qu'on ne va pas identifier les gens comme ça. La localité est choisie au hasard et l'échantillon est choisi au hasard. Les femmes comme les hommes. Et c'est sur cette base-là que l'échantillonnage est fait.
Ces gens, on va leur injecter ces vaccins, si on peut dire. Quelle est la réaction que les médecins attendent de ces patients-là?
Dès que le vaccin est injecté, ils seront mis sous surveillance et régulièrement, on leur fait des tests sérologiques pour voir quelle a été la réaction du corps humain. Si le corps humain arrive à développer des anticorps contre le virus, on se rendra compte. Donc ça, c'est des titrages qui se font et ça se fait autant à Bamako qu'à Maryland aux États-Unis.
Si le corps développe des anticorps, est-ce que ça voudrait dire que le test est concluant?
C'est plusieurs tests qu'il faut faire, mais ce n'est pas sur la base d'un seul test qu'on peut dire que le test est concluant. Mais les gens ne réagissent pas de la même manière. Vraiment, c'est plusieurs étapes et c'est un long processus.
Ce que beaucoup se demandent, est-ce que c'est le virus même qu'on va injecter à ces gens-là?
Non, c'est le virus atténué. C'est le virus atténué. On ne peut pas injecter le virus vivant actif et on va savoir la réaction du corps. Comme ça, le corps va reconnaître le virus et va développer des anticorps contre le virus en question.
Ça veut dire que ces personnes ne risquent absolument rien, hein?
Absolument. Ça veut dire que ces personnes deviendront immunisées contre le virus en question.
Est-ce qu'on sait le temps que cela va prendre?
Bon, ça peut prendre une année comme ça peut aller au-delà. Mais un essai vaccinal, c'est toujours par précaution. Parce qu'un vaccin aussi ne protège pas à 100%. Et puis, il y a des marges d'erreur qu'il faut prévoir.
Voilà, docteur Abdoulaye Nene Koulibaly, que j'ai joint à Bamako, au Mali.
Suite des assemblées annuelles au FMI et à la Banque mondiale aujourd'hui à Washington, ces assemblées sont l'occasion pour les ONG d'exprimer leur désaccord sur les politiques des institutions de Bretton Woods qui, selon eux, détruisent parfois le tissu économique et social des pays qu'ils sont censés aider. Les ONG se félicitent d'un infléchissement du discours du FMI et de la Banque mondiale concernant une croissance à tout prix. Aujourd'hui, la lutte contre la pauvreté et les inégalités sont de plus en plus mises en avant. Cela n'empêche pas les ONG de dénoncer certaines mesures imposées aux pays récipiendaires. Nicolas Montbrial de l'ONG Oxfam est présent aux assemblées à Washington.
Donc nous, il y a une question qui nous préoccupe beaucoup, c'est la question des inégalités. On a publié un rapport il y a quelques mois qui dit que les 85 personnes les plus riches ont autant de richesses que les 3,6 milliards les plus pauvres. C'est une statistique assez choquante qui a fait réagir pas mal de monde. Et on a vu un changement de rhétorique au niveau du FMI et de la Banque mondiale qui avait l'habitude d'être toujours à propos de la croissance va réduire la pauvreté et faisons que de la croissance. Maintenant, ils changent en disant non, ce n'est plus que de la croissance, il faut vraiment se concentrer sur des politiques qui bénéficient les 40% les plus pauvres.
Mais est-ce qu'il s'agit que de bonnes intentions, d'une rhétorique, on pourrait dire comme ça, ou est-ce qu'ils travaillent vraiment à modifier leur programme?
Oui. C'est un peu la question à 1 million. Hein. Bon, on les entend beaucoup parler. On commence à voir certains changements, par exemple, au FMI qui publie un rapport qui dit que les inégalités sont mauvaises pour la croissance et que la redistribution n'est pas mauvaise pour la croissance. Imaginez ça il y a quelques années du FMI, non. La Banque mondiale aussi change ses politiques en disant qu'il faut se concentrer plus sur les plus pauvres. On entend le FMI au niveau des politiques de taxes dire qu'il faut se débarrasser de tout ce qui est exemption de taxes pour les entreprises. Il faut se débarrasser des zones franches. Ce sont des choses qui ne bénéficient pas aux plus pauvres. En même temps, on a un certain scepticisme quand on voit le FMI aller en Espagne, dire à l'Espagne « Ah, il faut augmenter votre TVA et il faut réduire vos taxes sur les entreprises. » Dans le genre politique qui vont augmenter les inégalités, c'est pas mal. Aussi, on sait que le FMI est en train de discuter avec le Ghana. Rien n'est confirmé parce que c'est toujours un peu intransparent, le FMI. Mais on entend des rumeurs comme quoi le FMI mettrait des conditionnalités demandant au Ghana de couper leurs dépenses publiques.
Et une grande manifestation est organisée samedi avec toutes les ONG dont vous. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ?
Oui, voilà, ça c'est la seconde question qui préoccupe toutes les ONG autour de ces réunions annuelles autour de la Banque mondiale. La Banque mondiale, quand elle investit dans des projets au niveau des pays, a un certain nombre de standards qui permettent d'éviter un impact négatif sur l'environnement, sur les populations indigènes, sur les droits de l'homme, sur le droit des enfants, etc., etc. Ils sont en train de réviser totalement ça. Ils ont publié un nouveau proposition de standard au mois d'août qui, accord unanime des ONG, déclaration de 350 ONG, dit que c'est un abaissement par le bas des standards. Donc la manifestation ce samedi est à propos de ça pour protester en disant on veut que la Banque mondiale garde des standards qui assurent, qui protègent les populations et l'environnement.
Nicolas Montbrial de l'ONG Oxfam, au micro de Claire Morin-Gibourg.
Voilà. Et pour terminer, notons que alors que la guerre contre l'État islamique est engagée, de nombreux pays redoutent le retour des centaines de jeunes d'Europe, d'ailleurs qui ont joint les rangs des djihadistes. 10% d'entre eux sont de jeunes femmes, originaires notamment de la France. Les précisions de Lionel Gaïma.
Il y a 2 semaines, Assia Saïdi, une adolescente de 15 ans, avait disparu au domicile familial dans le sud de la France, expliquant sur Facebook qu'elle allait au djihad en Syrie. Des enquêteurs et sa famille paniqués l'ont retrouvée samedi dernier dans un bar de Marseille où elle travaillait.
J'étais entraînée en voyant les vidéos de ça. Et puis après, quand je suis arrivée à Marseille et que j'ai rencontré des gens, ouais, ils m'ont beaucoup aidée. Ils m'ont dit que c'était pas vraiment islam là-bas. C'était des terroristes, des gens qui tuaient les femmes et les enfants. C'était pas islam du tout, quoi. C'est pas la bonne direction. Donc après, j'ai arrêté.
D'autres cas similaires ont des fins moins joyeuses. Des centaines de filles et jeunes femmes quittent les pays occidentaux pour rejoindre l'État islamique. Et d'autres groupes radicaux. Difficile de dire combien elles sont, mais la France semble être le principal pays de départ. L'anthropologue français Dunia Bouzard dirige à Paris un nouveau centre de prévention de la radicalisation. Les recruteurs font appel au sentiment lorsqu'il s'agit de femmes, explique-t-elle.
Puisque les filles, les groupuscules, les persuadent qu'elles vont faire de l'humanitaire et que la fin du monde est pour demain. Et du coup, ils les persuadent qu'elles doivent mourir sur la Terre Sainte pour sauver ce qu'elles aiment.
L'État islamique envoie aussi un message activiste en direction des femmes, note de son côté Louis Caprioli, spécialiste des réseaux islamiques et ancien sous-directeur de la lutte contre le terrorisme en France.
L'État islamique a fait un changement complet. Et c'est eux-mêmes qui valorisent le rôle de la femme dans le djihad. C'est non seulement on va faire du social tout ça, mais on va jouer un rôle.
Certaines recrues sont parfois des musulmans qui se sentent rejetés par la société européenne. Mais Hélène, 17 ans, a grandi dans une famille athée de la banlieue parisienne avant de se convertir à l'islam il y a 2 ans. Le journal Le Monde a relaté comment elle gardait les vidéos d'un prêcheur koweïtien et comment son petit ami égyptien a promis de l'amener dans un pays respectueux de la charia. Ces jeunes n'ont en réalité qu'une vision superficielle de l'islam, explique l'anthropologue du Bouzard.
Est-ce que les 3/4 des jeunes dont je vous parle n'ont jamais mis les pieds dans une mosquée et par exemple le mardi elles mangent du porc et le mercredi elles s'apprêtent à partir en Syrie.
Certains jeunes catholiques sont attirés par l'islam militant, relève de son côté l'expert Louis Caprioli.
Elles découvrent à travers l'islam une rigueur que le catholicisme n'a pas. Elles découvrent que, en particulier comme ce sont des jeunes femmes catholiques, que l'islam respecte mieux la femme.
La réalité qu'il découvre sur le terrain est tout à fait différente. Un rapport onusien décrit les atrocités massives commises par l'État islamique contre les femmes en Irak, y compris les meurtres et l'esclavage sexuel.
Voilà, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. C'est l'heure des sports donc et j'accueille Timothée Donangmaï. Bonsoir Timothée.
Bonsoir Bagassi.
Et on commence par la suite des éliminatoires de la CAN 2015.
Et oui, au tableau ce soir, dans le groupe G, Sénégal-Tunisie et Botswana-Égypte. Dans le groupe C, Lesotho-Angola. Demain, dans le groupe A, duel des leaders, République du Congo-Afrique du Sud. Le Congo qui a 6 points et l'Afrique du Sud 4. Groupe B, Malawi-Algérie. Les Fennecs en déplacement à Blantyre avec 6 points en poche. Le Malawi a 3 points et aimerait bien engranger 3 autres sur sa pelouse. Dans le groupe D, Sierra Leone-Cameroun à Yaoundé, le Cameroun leader avec 6 points alors que la Sierra Leone a 0 point.
Et suite des éliminatoires de l'Euro 2016, plusieurs matchs au tableau.
Et oui, il y a notamment Pays-Bas, Kazakhstan, Turquie, République tchèque, Bulgarie, Croatie et Italie, Azerbaïdjan. Hier, l'Ukraine a défait le Bélarus 2-0. L'Espagne a sombré face à la Slovaquie 2-1. Promenade de santé de l'Angleterre face à Saint-Marin 5-0. Victoire de la Lituanie contre l'Estonie 1-0 et victoire sur le même score de la Slovénie face à la Suisse.
Et toujours en football européen, quelques soucis pour Zinedine Zidane, menacé de suspension pour défaut de diplôme approprié.
Et oui, la Fédération espagnole de football reproche à l'ancien international bleu d'entraîner l'équipe de réserve du Real Madrid sans avoir complètement validé son diplôme d'entraîneur. Et selon des sites internet espagnols, Zidane dispose de la licence UEFA A, équivalente au niveau 2, et que ses heures de pratique doivent être validées par la Fédération française de football pour qu'il obtienne le niveau 3.
Un mot de tennis avec les Masters de Shanghai en Chine, où l'on attend le choc au Federer Djokovic en demi-finale.
Roger Federer, numéro 3 mondial, a défait aujourd'hui Julien Benneteau en 2-7, 7-6 et 6-0. On aura donc droit demain au cinquième affrontement de cette saison, le troisième en Masters entre Djokovic et Federer. L'autre demi-finale à Shanghai opposera samedi l'Espagnol Feliciano Lopez au Français Gilles Simon.
Voilà, merci Timothée.
Allez, c'est l'heure de la musique avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane, salut Bagassi. La chanteuse camerounaise Micheline Ewang était notre invitée dans RM Show hier. D'où vient son inspiration?
Bon, déjà, mon histoire, ma propre histoire, comme je disais avant.
Déjà, c'est une inspiration.
C'est une inspiration. Et puis, tout ce qui m'entoure, je suis un peu comme ma grand-mère. Comme je disais tantôt, ma grand-mère nous voyait descendre de la voiture et directement, elle avait une chanson pour nous accueillir. Et donc c'est tout ce qui se passe autour de moi. Je peux facilement, il y a au moins 10 à 15 chansons qui me viennent par jour. Mon téléphone est saturé tout le temps parce que même au travail, dès que je vois un truc, une chanson me vient, je vais me cacher dans les toilettes et je recorde tout de suite.
Wow, donc,
la nature, la nature bien sûr, pour le bruit d'eau, le son des vagues, le son des oiseaux.
Exactement.
Donc la vie de tous les jours quoi, passe autour de nous. Yeah, 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 yeah.
Micheline Ewang, Ikori. Merci Roger.
De rien Morgane, bon week-end à toi et à Bagassi.
Roger Muntou que vous retrouvez tous les soirs dans le RM Show à 20h temps universel. Ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Yemi Obadjimi a dirigé la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Au micro, c'était Morgane Guiriec.
Bagassi Koura.
On se retrouve la semaine prochaine.